Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 16 janvier 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 197 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir sur les données de l'inflation au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est par rapport à l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Ensuite, je vais vous parler de l'autorisation de la part de la SEC, qui est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Et en fait, ils ont autorisé les FNB Spot Bitcoin. Donc, ça a été la grosse annonce la semaine passée. Et dernière chose, je veux vous parler des plans de financement Buy Now, Pay Later. Donc, en français, c'est acheter maintenant, payer plus tard. Et je vais vous parler de ça vis-à-vis les commerçants, donc ceux qui offrent cette option-là. Mais surtout, je vais vous parler de ça par rapport à l'endettement des consommateurs parce que les paiements, les financements Buy Now, Pay Later deviennent de plus en plus attrayants et ça devient une autre solution pour ceux qui ont déjà des cartes de crédit assez remplies. Donc, on va commencer tout de suite avec les données qu'on a obtenues ce matin. Donc, en fait, c'est concernant l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre au Canada. Et on a pu voir que l'IPC, elle a augmenté de 3,4%. Et ça, évidemment, c'est une remontée de l'inflation parce que si on regarde par rapport au mois de novembre, à ce moment-là, on avait une augmentation de 3,1%. Donc, de 3,1 à 3,4% en décembre, légère hausse de l'inflation. Et on a également obtenu l'IPC annuel moyen pour 2023. Donc, qui a été à ce moment-là de 3,9%. Donc, 3,9% pour l'année 2023. Et ça, à l'exception de 2022, 3,9%, c'est la croissance annuelle la plus importante depuis 1991, et je vous rappelle qu'en 2022, on avait battu un record en fait qui date de 40 ans avec un taux d'inflation annuel qui avait grimpé à 6,8%. Donc cette année, à 3,9%, on est beaucoup plus bas, mais reste que historiquement, c'est un niveau d'inflation élevé. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, hier, la Banque du Canada, elle a dévoilé les résultats de son sondage qu'elle a fait auprès de 700-800 dirigeants d'entreprises. Évidemment, c'est des entreprises canadiennes. Et c'était dans le but de connaître leurs attentes vis-à-vis l'inflation, donc l'inflation pour les années à venir. Et selon l'enquête, environ un quart des entreprises pensent que le taux d'inflation ne descendra pas à 2%, ce qui est la cible de la Banque centrale, avant une période d'au moins 4 ans. Donc, on peut voir que 25% des entreprises canadiennes sont encore un peu craintifs vis-à-vis de l'inflation. Ils pensent encore qu'on va rester au-dessus de 2% pour au moins 4 ans. Donc, je suis quand même plus ou moins d'accord avec eux, c'est-à-dire que je m'attends effectivement que l'inflation demeure élevée, du moins en 2024. Comme je vous dis, je pense qu'il va y avoir une légère remontée qui va se dessiner. Là, à savoir, pendant 4 ans, je pense que ça reste un petit peu légèrement pessimiste. Je pense que d'ici 2025, la fin 2025, on devrait retourner dans les environs de 2%. Et si on regarde un peu les autres résultats de l'enquête de la Banque du Canada, on peut voir que dans l'ensemble, les entreprises sont moins nombreuses à vouloir augmenter leurs prix. Et ça, c'est du fait que la demande, elle a faibli. Donc, c'est sûr que si tu continues à augmenter tes prix, à un moment donné, il va y avoir de moins en moins d'acheteurs qui vont être en mesure de l'acheter. Et là, en même temps, avec la conjoncture économique, je pense que ça va ralentir justement la possibilité de monter ses prix. Et les dirigeants, en fait, qui ont l'intention de continuer de monter le prix, ils vont justifier ça avec les hausses salariales, c'est-à-dire qu'ils n'ont comme pas le choix de monter les salaires de leurs employés pour que ça vienne fitter un peu avec l'augmentation du coût de la vie. Et à ce moment-là, ils vont également monter leur prix pour être en mesure de rétablir leur marge de profit selon les hausses salariales qu'ils vont avoir faites. Donc, c'est un peu ça la picture au niveau des attentes des dirigeants d'entreprise au Canada. Donc, on voit encore de l'inflation pour la prochaine année et pour, comme je vous dis, un quart des entreprises, des dirigeants d'entreprise, ils voient encore un taux d'inflation au-dessus de 2% pour au moins 4 ans. Sinon, si on regarde du côté des États-Unis, la semaine passée, on a pu voir, en fait, on a pu voir exactement les mêmes données concernant l'inflation pour le mois de décembre, c'est-à-dire que l'IPC, elle a également augmenté de 3,4% comparativement à 3,1% pour le mois de novembre. Donc, l'inflation aux États-Unis et au Canada est au même niveau présentement. Par contre, les économistes au niveau des États-Unis, ils prévoyaient une augmentation de seulement 3,2%. Donc, l'inflation qui est passée légèrement au-dessus des attentes des économistes, donc au-dessus des prévisions. Et d'ailleurs, selon moi, c'est ça qui a fait chuter le SP500 et l'indice Nasdaq au courant de la semaine passée, comme si les investisseurs ont commencé à avoir peur que la Fed ne puisse pas baisser les taux d'intérêt autant que prévu, du fait que justement l'inflation pourrait se remettre à remonter. Donc ça a causé un peu d'inquiétude du côté des marchés US. Et du côté des marchés américains, c'est aussi la saison des résultats financiers du mois de janvier qui commence. Donc logiquement, ça va être les earnings d'un paquet d'actions qui font partie de mon portefeuille. Entre autres, il y a Microsoft, Google, Meta, Netflix, Intel, etc. Donc tous des résultats financiers qui vont sortir au cours des prochaines semaines. Et encore une fois, les résultats financiers des compagnies, ça nous permet de prendre le pouls de la santé économique des États-Unis. Par exemple, si on regarde la semaine passée, on a pu voir que la banque américaine Citigroup, elle a annoncé la suppression de 20 000 postes dans le monde. Donc, eux autres, ils appellent ça une réorganisation stratégique. Mais tu sais, tu peux bien appeler ça comme tu veux. Ça reste que Citigroup va couper 20 000 emplois à l'international. Donc, tout ça pour dire que les earnings des prochaines semaines, ils vont nous permettre d'évaluer un peu le comportement des consommateurs. Est-ce que le monde achète autant? Est-ce que les gens sont prêts à... Où est-ce que le monde met leur argent? Donc, en fait, le dévoilement des earnings, ça nous permet de venir justement mesurer les revenus et les bénéfices par rapport au dernier trimestre, par rapport à l'année passée, voir est-ce qu'il y a de la croissance, est-ce qu'il y a des baisses dans certains départements, dans certaines industries. Et ça sert à ça, en fait, c'est que par trimestre, on est capable un peu de voir l'évolution en se basant sur les chiffres des plus grandes compagnies qui composent en fait l'économie américaine. Donc, c'est une période qui est super importante et qui amène également son lot de volatilité sur les marchés boursiers. Et pour clore le volet des marchés US, si on regarde du côté des graphiques, les graphiques en journalier, on regarde l'indice SP500 et l'indice Nasdaq, la picture est similaire et on peut constater qu'il y a un double top, c'est-à-dire un double sommet qui commence à prendre forme. Puis tu sais, en analyse technique, les figures chartistes comme un double top, un double sommet, si ça se concrétise à ce moment-là, les indices boursiers pourraient se mettre à chuter fortement dans les semaines à venir. Encore une fois, que ce soit un double top ou un head and shoulder ou peu importe la figure chartiste, c'est un, présentement, le double sommet ne s'est pas encore dessiné. Et deuxièmement, l'analyse technique, c'est pas une garantie non plus. C'est-à-dire que c'est davantage une question de probabilité que de certitude. Mais présentement, c'est ça qui se dessine du côté des graphiques des indices boursiers américains. Maintenant, je vais vous parler de la dernière nouvelle du côté de la crypto. La nouvelle qui a fait les grands titres dernièrement. Et en fait, c'est du côté des marchés US. En fait, les FNB Spot Bitcoin cotés sur les marchés américains ont été acceptés par la SEC. Donc, il y a maintenant une dizaine d'ETF qui vont permettre aux investisseurs d'avoir une exposure au Bitcoin. Il faut savoir qu'il y avait déjà des FNB qui suivaient le rendement du Bitcoin, sauf qu'ils utilisaient les futures. Les futures en français, c'est les contrats à terme. Mais là, dans le cas d'un ETF qu'on appelle Spot, ils détiennent réellement du Bitcoin. Donc, c'est pas juste via les contrats à terme, c'est réellement en achetant du Bitcoin. Et grosso modo, c'est une façon pour ceux qui veulent acheter du Bitcoin d'en avoir sans passer par l'intermédiaire d'une bourse de crypto-monnaie comme Coinbase et sans devoir également gérer le volet du stockage. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre ça sur leur clé, un ledger. Ils vont utiliser le ETF Spot pour détenir indirectement du Bitcoin. Et là, suite à la nouvelle que la SEC approuvait les FNB Spot, le Bitcoin il a atteint un sommet à 48 500 $ US. Sauf que là, depuis l'annonce officielle, le prix est redescendu autour de 43 000 $ US aujourd'hui même. Donc, je vous rappelle par contre qu'au début de l'année 2023, le Bitcoin il oscillait dans les environs de 17 000 $ US. Donc, ça reste une énorme remontée d'environ 155% en seulement un an. Et cette remontée-là s'explique entre autres avec l'anticipation de l'autorisation de la SEC concernant les ETF Spot Bitcoin, mais il y a également l'anticipation du halving du Bitcoin qui va avoir lieu en 2024, donc normalement autour de avril, mars. Et pour vous expliquer rapidement, ça consiste en quoi un halving du Bitcoin? En fait, c'est un événement qui a été programmé dans le protocole du Bitcoin et qui fait en sorte que la récompense pour miner du Bitcoin, un bloc de Bitcoin en fait, elle est réduite de moitié et ça, c'est à chaque 210 000 blocs. Et le but de ça, en fait, c'est de réduire le nombre de nouveaux coins entrant dans le réseau jusqu'à atteindre le nombre maximal qui est défini à 21 millions. Donc, autrement dit, on sait déjà d'avance qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Et le halving, en fait, vient comme ralentir ce processus-là pour que ce soit de plus en plus difficile de miner du Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est un peu l'argument de ceux qui croient en cette crypto-monnaie-là parce que c'est ça qui lui donne un peu sa valeur du fait que la valeur du Bitcoin découle du phénomène de rareté parce qu'on sait qu'il va avoir un nombre maximal. Contrairement aux devises standards comme le dollar ou l'euro que les banques centrales peuvent imprimer à l'infini, ce qui vient nécessairement dévaloriser la monnaie. Bref, pour revenir sur l'engouement, le hype sur les ETF Spot Bitcoin, de mon côté, je vais être bien honnête, je comprends pas trop l'excitement par rapport à l'arrivée de ce type de ETF-là sur les marchés US parce que, ben de un, il existait déjà des ETF pour reproduire le rendement du Bitcoin. Comme je vous dis, c'était via les futures. Mais tu sais, c'est une approche pour obtenir le même genre de performance. Donc, je suis pas sûr que ce soit un game changer tant que ça. De deux, il y avait aussi déjà des FNB Spot Bitcoin. C'est juste qu'ils n'étaient pas cotés sur les bourses américaines. Juste à titre d'exemple, ça fait longtemps qu'on a un FNB Spot Bitcoin au Canada. En fait, sur le TSX, ça fait depuis février 2021 que ça existe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui voulaient vraiment avoir une exposition au Bitcoin, il y avait déjà bien d'autres façons de le faire. Et de trois, le fait d'acheter des parts d'un ETF pour détenir du Bitcoin, ça va un peu à l'encontre du concept de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que ça ne suit pas leur philosophie de base qui est « not your keys, not your coins ». C'est-à-dire que si ce n'est pas l'investisseur qui stocke lui-même sa crypto, par exemple sur un ledger, théoriquement, ce n'est pas réellement sa crypto du fait qu'il reste à la merci de l'entité qui détient réellement cette crypto-là pour lui en son nom. Bref, mon point par rapport à ça, c'est que je ne suis pas convaincu que l'arrivée des FNB Spot Bitcoin sur les marchés US, ça va attirer un bassin de nouveaux investisseurs. Je pense que la très grande majorité de ceux qui croient vraiment au Bitcoin, ben, ils en ont déjà acheté depuis longtemps. Ils ont trouvé une manière ou une autre d'avoir une exposition à cette crypto-là. Et je suis peut-être dans l'erreur, mais de mon côté, je m'attends davantage à ce qu'il y ait une certaine prise de profit par un certain nombre d'investisseurs, donc suite à la remontée qui était en anticipation de l'autorisation de la SEC. Et comme je vous dis, de mon côté, je pense que le prix du Bitcoin devrait redescendre peut-être dans les environs de 38 000 $ US, 40 000 $US, que cette remontée-là était un peu basée sur des fausses attentes par rapport à l'engouement que ça va venir créer, c'est-à-dire est-ce que réellement les FNB spot Bitcoin sur les marchés américains vont réellement amener une nouvelle vague d'acheteurs pour du Bitcoin? C'est ce volet-là que je ne suis pas convaincu, mais c'est ça mon opinion par rapport au Bitcoin, et je tiens à préciser encore une fois, je ne détiens pas de Bitcoin, d'Ethereum ou n'importe quel autre type de crypto-monnaie. Je n'ai pas d'exposition à la crypto. Cette classe d'actifs-là ne répond pas à mes critères d'investissement. Sinon, ce que je voulais vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est les plans acheter maintenant, payer plus tard. Ces options-là qui sont mieux connues sous le nom de Buy Now, Pay Later, et on peut penser à Affirm, Afterpay, Klarna. C'est toutes des compagnies qui offrent en fait de financer vos achats avec des paiements différés sans intérêt. Et comme je vous dis, en théorie, ça a l'air super intéressant parce que ça évite aux consommateurs de sortir la somme au complet au moment de l'achat, et ça permet d'étirer le paiement sur quelques semaines sans payer d'intérêt. Donc, théoriquement, c'est plus avantageux que d'utiliser une carte de crédit à 20% d'intérêt. Et je donne un exemple concret. Disons que je me magasine une paire de bottes puis que je vais sur le site de Harry Rosen. Je trouve une paire de bottes à 500 $ plus taxes. Donc, je regarde sur le site web et je peux voir que j'ai l'option d'acheter avec Klarna. Et en utilisant ce financement-là, je vais pouvoir payer en 4 versements de 125 $ plus taxes. Et pour être approuvé, Klarna va faire ce qu'on appelle un soft credit check. Donc, autrement dit, c'est une vérification de crédit qui est très de base. Et ce que ça fait, c'est que 95% du monde vont être acceptés pour ce type de financement-là. C'est pas une enquête de crédit très poussée. Puis ensuite de ça, à l'achat, donc on reprend l'exemple des bottes à 500 $ plus taxes, à l'achat, tu payes 25% du total, donc dans ce cas-là, 125 $ plus taxes, et ensuite, tu payes 25% à chaque 2 semaines, donc 6 semaines plus tard, l'achat est payé au complet, sans aucun intérêt. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec Klarna. J'ai pas vérifié avec Afterpay, Affirm, à quoi ressemble chacune de leurs modalités, mais l'idée reste très similaire. Ça reste une méthode que tu achètes maintenant et que tu payes plus tard avec des paiements différés. Et la problématique avec ça, c'est que de plus en plus de commerçants vont adopter ce type de plan-là d'acheter maintenant et de payer plus tard. Par exemple, on peut penser à Walmart, qui est, on s'entend, une énorme compagnie. Et maintenant, Walmart offre le financement via Klarna pour ses clients qui vont magasiner sur leur site web en ligne ou même sur leur application. Et le danger de ça, c'est que les consommateurs peuvent se retrouver à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas en finançant justement leur achat avec du « Buy Now, Pay Later ». Et à ce moment-là, ils pourraient se retrouver avec une liste de paiements qui se rajoute à leur prêt actuel, leur carte de crédit, leur marge de crédit, leur versement hypothécaire, etc. Et l'autre chose, évidemment, c'est que c'est sûr que si tu payes dans le délai prédéterminé, disons 4 versements aux 2 semaines sur une période de 6 semaines, dans ce cas-là, si tu payes à temps, ben tu n'as pas aucun intérêt à payer, c'est fantastique. Par contre, disons que tu n'arrives pas à faire un paiement à temps, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu te retrouves avec des frais de retard qui est un peu l'équivalent des intérêts sur une carte de crédit. Et pour ceux qui se demandent comment Affirm, Afterpay, Klarna, toutes ces compagnies-là font de l'argent s'ils ne chargent pas d'intérêt au client, à l'acheteur, ben en fait, la réponse est simple. C'est le commerçant, c'est-à-dire celui qui vend le produit, qui va payer un pourcentage de commission à ces compagnies-là. Et on peut comprendre que les commerces sont prêts à payer des commissions comme ça parce que l'option Buy Now, Pay Later, ça génère plus de ventes du fait que, comme je vous dis, les acheteurs, ils peuvent étirer leur paiement sans payer d'intérêt, sans utiliser leur carte de crédit. Donc, c'est sûr que ça paraît comme étant un excellent deal puis une belle façon de pouvoir se payer des choses sans sortir tout le montant upfront. Par contre, du côté des consommateurs, il faut s'assurer de ne pas tomber dans la surconsommation puis de se retrouver à financer vos dépenses avec du buy now, pay later en vous disant que plus tard, ben vous allez arriver à payer tout ça dans le futur. Encore une fois, c'est un peu le même thinking que avec l'utilisation d'une carte de crédit. C'est-à-dire que si tu utilises bien ta Visa ou ta Mastercard, ben tu fais des achats, tu gagnes des remises en argent, du cashback, ou tu gagnes des points récompenses, puis tu rembourses la totalité de ton solde, et à ce moment-là, ben tu payes aucun intérêt aussi. Et si tout le monde faisait ça, ben il n'y en aurait pas de problème parce que tu utiliserais les cartes de crédit pour financer tes achats, entre guillemets, mais tu les rembourses avant le délai de grâce, donc tu ne payes pas d'intérêt et par le fait même, en même temps, ben tu gagnes des remises en argent ou des points récompenses, des earn miles, quoi que ce soit. Donc, ce serait avantageux de faire ça, d'utiliser sa carte de crédit. Mais malheureusement, présentement, si on regarde au Canada, il y a des milliards de dollars en soldes impayés sur les cartes de crédit. Donc, visiblement, ce n'est pas une approche que la majorité des consommateurs utilisent. Et c'est ça qui me fait peur avec le Buy Now, Pay Later, c'est-à-dire que avec l'option d'acheter maintenant et de payer plus tard, sur papier, c'est une belle possibilité du côté cash flow d'étendre son paiement sans payer aucun intérêt. Par contre, au même titre que la carte de crédit, si c'est mal géré puis on utilise le Buy Now, Pay Later pour financer des achats qu'on n'a pas les moyens de faire, c'est là que ça devient un problème qui peut affecter les finances personnelles des consommateurs. Et c'est vers là que je pense qu'on se dirige. C'est-à-dire que en plus des cartes de crédit, maintenant, les compagnies de Buy Now, Pay Later, je pense que ça va être un autre élément qui va venir contribuer à l'endettement des ménages. Donc, surveiller ce type de financement-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je pense que tu peux utiliser Klarna, Affirm ou toute autre option de Buy Now, Pay Later. Sauf qu'il faut que ça soit fait de manière stratégique. Et du côté des commerçants, je comprends tout à fait la raison d'utiliser ce type de financement-là, surtout avec la santé financière des consommateurs. Je pense que ça te permet de générer davantage de ventes. Sauf qu'à long terme, je suis pas convaincu que le Buy Now, Pay Later pour le grand public, ce soit une bonne chose. Donc, c'est sûr que c'est des données que je vais surveiller par rapport au Buy Now, Pay Later, autant comment les entreprises l'utilisent que les répercussions sur les consommateurs. Et je pense qu'ultimement, on va se retrouver avec de plus en plus de ménages en insolvabilité parce que ce type de financement-là va se rajouter aux cartes de crédit, marge de crédit, prêt auto, prêt étudiant et tout ce lot de dettes que beaucoup de personnes doivent réussir à payer à chaque mois. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le phénomène de Buy Now, Pay Later. J'espère également que ça va vous éviter de commettre des erreurs du côté de vos finances personnelles. Et encore une fois, si vous appréciez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts, l'application Balado sur votre iPhone. Suivez ma chaîne YouTube qui est Traders360. Et si vous aimez le podcast, comme je vous dis, c'est une belle façon de m'encourager. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.